Suivez Priorité Santé avec la B6 qui devient Sounou Banque Sénégal. Une nouvelle ère pour réaliser toutes vos ambitions, avancer ensemble et relever des défis plus grands.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. 8 lieux, 130 morts, 413 blessés hospitalisés. 10 ans après, le 13 novembre, nous vous proposons d'essayer de comprendre, ensemble, comment vont celles et ceux qui ont survécu à cette soirée et à cette nuit, qui ont bouleversé et marqué durablement les esprits en France et bien au-delà. Celles et ceux qui ont été frappés, endeuillés, celles et ceux qui ont secouru, accompagnés, mais également qui ont suivi, regardé, partagé le choc, l'effroi et le chagrin. Ensuite est venu le recueillement, la tentative d'explication, l'enquête, la justice. Et aujourd'hui, comment vont-ils? Comment vont-elles? Quelles ont été les prises en charge, les parcours de soins des personnes percutées par la violence terroriste sur les terrasses, au Stade de France, au Bataclan? Comment les traumatismes évoluent-ils? Qu'est-ce qui a été efficace, salvateur, source de soulagement pour certains et qui, à l'inverse, n'a pas fonctionné pour d'autres? Des parcours singuliers, des ressentis multiples, même si des récits se rejoignent. Santé mentale, 10 ans après les attentats du 13 novembre, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Stress post-traumatique, réviviscence, phobie, dépression, faire des projets, se reconstruire. Quel sens donner aux commémorations dans ce processus? Avec nous dans les studios de RFI, Carole Damiani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, directrice de l'association Paris Aide aux Victimes et vous avez consacré de nombreux ouvrages à la victimologie et au trauma. Un témoin pour raconter 10 ans après et les 10 années écoulées. Nous donnerons la parole tout à l'heure au cours de l'émission à Laurent, survivant du Bataclan.
Priorité santé sur RFI.
Carole Damiani, cette émission, nous l'avons enregistrée la veille des commémorations, puisque vous assistez aux différents événements qui, ce jour, marquent le 10e anniversaire à Paris. À 18h, notamment, un jardin mémoriel inauguré près de l'hôtel de ville de la Grande Mairie de Paris, au centre, juste à côté de la Seine. Recueillement, création musicale. Il y a donc des lieux, il y a des dates. Une question très simple, Carole Damiani. Quand on est psychologue, à quoi ça sert les commémorations?
Ça sert à reconstruire du lien social. Parce que le traumatisme, ça ne touche pas que le psychisme, ça ne touche pas que le corps. Ça touche aussi tous les liens que l'individu entretenait avec la société, avec son entourage. Et la mémoire, c'est quelque chose d'important. Et donc, pour les victimes, cette reconnaissance a un sens.
Les survivants, les proches des victimes endeuillées depuis plus de 30 ans, vous les accompagnez, Carole Damiani, par votre travail, on l'a dit, de psychologue. Est-ce que, par rapport à cette expérience multiple des traumas sur la durée, vous estimez que cette date précise du 13 novembre, ça constitue dans une certaine mesure un événement à part sur le plan du ressenti, sur le plan de la santé mentale et aussi, vous l'avez dit à l'instant, du lien social?
Alors, cet événement a des répercussions que l'on retrouve chez d'autres victimes, que ce soit les attentats précédents, par exemple ceux de 95 à Saint-Michel, que ce soit des victimes d'événements graves comme la rue de Trévise, comme des viols. Cependant, il y a une particularité, c'est la dimension sociale, la dimension collective que cet événement a pu prendre pour l'ensemble de la société française.
Alors, je resitue juste pour des auditeurs qui sont un petit peu loin de Paris. La rue de Trévise, c'était il y a quelques années une explosion de gaz en plein centre de Paris qui a fait de nombreuses victimes et traumatisé tout un quartier. Quand on dit un événement par rapport à un autre, s'il marque quelque chose de différent, sur le 13 novembre, vous diriez quoi? C'est la jeunesse qui a marqué les esprits ou ce sens de la fête, puisqu'après, il y a eu cette association justement qui disait on va pas arrêter de faire la fête, on va continuer. Bien sûr, il y a la mémoire, mais il y a aussi tout ça. Pour vous, c'était ça le grand changement?
Le grand changement, c'est que toute la société française s'est sentie impliquée. C'est-à-dire, on a touché au hasard. Autant, par exemple, pour les attentats de Charlie, l'hypercachère, ce sont des publics particuliers qui ont été ciblés, les journalistes ou alors une communauté. Alors que là, c'est n'importe qui pouvait être touché. Ils ont bien ciblé. Ce sont des personnes qui font la fête, qui sont totalement en dehors de toute polémique ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être moi.
Le 13 novembre, depuis 10 ans. Alors là, si on s'intéresse aux actions en santé mentale, il y en a énormément qui ont été engagées. Peut-être d'ailleurs que jusqu'à présent, en France, on n'avait pas vu autant justement de mouvements, de prise en charge, de propositions d'accompagnement. Vous, à titre personnel, vous avez engagé quoi justement comme approche et comme suivi en santé mentale par rapport à ces victimes ou survivants des attentats ?
La première chose, lorsque nous recevons des victimes, c'est d'évaluer quels sont ses besoins à elles. Il n'existe pas une technique magique qui pourrait répondre à l'ensemble des besoins de toutes les victimes, mais chacun a une histoire, chacun a une manière de fonctionner, chacun a des ressources différentes. Et vraiment, le premier temps, c'est celui de l'évaluation. Qu'est-ce qui va être important pour cette personne-là ? Est-ce que c'est de comprendre comment elle fonctionne ou est-ce que c'est à tout prix abraser ses symptômes qui la font tant souffrir ?
Votre association Paris Aide aux Victimes aujourd'hui, elle est en contact avec combien de ces personnes marquées par les violences, les attentats du 13 novembre ?
Alors, nous avons cette particularité d'être agréés par le ministère de la Justice, ce qui fait que le procureur, lors d'un événement de cette nature, nous transmet la liste des victimes et c'est nous qui prenons contact avec ces victimes. Donc, nous avons eu au moins un contact avec l'ensemble des victimes. Après, elles ont été dispatchées en fonction de leur lieu de résidence sur d'autres associations ou d'autres lieux de soins. Mais en tout cas, pour les victimes parisiennes, nous avons reçu la quasi-totalité de ces victimes, au moins une fois en tout cas.
On parlait des commémorations il y a quelques minutes. Est-ce que dans la perspective de ce rendez-vous, vous avez eu connaissance du fait que certains survivants avaient recontacté peut-être des psys parce qu'ils se sentaient en vulnérabilité particulière ?
Alors, il y a eu déjà un moment où les victimes se sont remanifestées. Ça a été au moment
du
procès. Le procès a été l'occasion pour nous de nouveau les rencontrer, de façon quotidienne d'ailleurs. Et certains ont réengagé un travail de soins. Et il y en a maintenant qui, seulement maintenant, souhaitent s'engager dans cette démarche parce que ce n'est pas possible d'y arriver ou parce que c'est le bon moment. Parce que pour certaines, auparavant, c'était trop compliqué.
Ce que vous soulignez là, c'est aussi qu'il y a des différents temps du ressenti, des conséquences de ce choc. Est-ce que justement, au niveau global, même si on le dit à chaque fois, chaque parcours est singulier, il y a une forme de temporalité dans le traumatisme entre le choc initial et ce qui se passe aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs temps que l'on peut repérer. Le temps de l'immédiat, qui est le temps de choc. Le temps ensuite de ce qu'on appelle, nous, le post-immédiat, qui correspond en gros au premier mois. Et c'est là où beaucoup de choses se jouent. Pour ceux dont les symptômes se déclenchent quasi immédiatement, on peut déjà faire cette première prise en charge. Et c'est là qu'on est le plus efficace possible suite à un événement traumatique. Mais il y en a pour qui c'est trop compliqué et qui vont avoir aussi des troubles différés. C'est-à-dire que ces troubles ne vont se manifester que plus tard. Donc, il y a ces temps qui vont scander et ce qui va scander aussi cette évolution, ça va être les événements extérieurs. Comment vont-ils jouer sur chacun, que ce soit le procès, que ce soit un événement de l'actualité, que ce soit une date de commémoration.
Ou même une naissance dans la famille.
Ou même une naissance. Ce sont des moments qui peuvent faire éclater ce qui se maintenait jusque-là ou au contraire venir l'apaiser.
Et qu'est-ce qui va déterminer l'option thérapeutique, Carole Damiani ? Parce que c'est vrai qu'en psychologie, en psychothérapie, en psychiatrie, il y a différents courants, il y a différentes approches, il y a même différentes techniques. Qu'est-ce qui va déterminer que pour telle personne victime ou survivante, on va opter pour telle ou telle approche thérapeutique ?
Alors, ce sera le clinicien qui va déterminer l'approche qui sera celle la plus peut-être efficace ou en tout cas la plus souhaitée pour la personne qu'on a en face de nous. On va faire des gros paquets, si vous le voulez bien. Tout d'abord, des techniques qui sont très centrées sur les symptômes. C'est-à-dire, je ne peux plus aller à tel endroit, je ne peux plus faire telle chose, je suis envahie par les reviviscences. Et parfois, des techniques d'exposition vont permettre progressivement d'appréhender ces lieux, d'appréhender ces reviviscences et de les apaiser. Ces techniques d'exposition sont bien connues maintenant, sont efficaces. En revanche, il y a des techniques qu'on appelle plutôt des techniques centrées sur la personne ou des techniques de fond qui sont plutôt dans une démarche de compréhension de ce qui s'est passé. On pleure tous, mais on ne pleure pas pour la même chose. On se sent coupable, mais pas pour la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on va creuser, on va essayer de comprendre comment chacun fonctionne. C'est une autre démarche et toutes les victimes ne sont pas prêtes à ce questionnement.
Et il y a cette question fondamentale de la durée. Des fois, c'est vrai que les gens autour, ceux qui n'ont pas été directement dans le traumatisme, voudraient qu'on s'en remette vite. Et puis, ça prend du temps, parfois beaucoup de temps, parfois on ne s'en remet pas. Il y a des fois, j'imagine, une forme d'incompréhension entre l'entourage, le cercle, et la personne qui, elle, vit le trauma.
Alors c'est pour cette raison, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de victimes aujourd'hui se fédèrent en association de victimes, parce qu'elles connaissent cette temporalité, elles connaissent la durée de cette douleur et de cette souffrance particulière. En revanche, effectivement, pour les proches, vivre avec un traumatisé, ce n'est pas facile.
C'est une forme d'aidance, hein.
C'est tout à fait une pérédance, une aidance, en tout cas de la part des proches. Et ce que nous faisons parfois, c'est de la guidance avec ces proches, c'est-à-dire leur expliquer pourquoi c'est long, pourquoi il ne faut pas banaliser, pourquoi il ne faut pas minimiser. Ce n'est pas ça qui va les aider.
Le fameux truc « quand on veut, on peut », c'est totalement faux. Et ça, on ne le dira jamais assez.
On remonte sur le cheval, ça ira plus vite.
Ouais, c'est ça. En tout cas, Carole Damiani, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va écouter ensemble la première partie de notre témoignage. Votre témoignage, Laurent, bonjour.
Bonjour.
Nous avons enregistré cet entretien à quelques jours du 10e anniversaire des attentats du 13 novembre. Vous étiez ce soir-là au Bataclan. Est-ce que cette date, est-ce que les commémorations, c'est quelque chose que vous appréhendez ou pas du tout ?
Oui, à différents points de vue. Il y a une appréhension parce que ça fait une date anniversaire. Donc forcément, 10 ans, c'est long. Et en même temps, c'est assez court, donc le temps faisant son effet, on oublie. Et quand arrive la date anniversaire, le cerveau se met en marche, donc on s'en souvient. Et on s'en souvient de plus en plus. Et depuis 10 ans, à chaque approche du mois de novembre, l'hiver est difficile.
Entre les deux, vous y pensez encore souvent ?
Oui. Je savais qu'on allait avoir cet entretien, oui. Et je me surprends à y penser, à des moments anecdotiques, qui n'ont rien à voir avec un sentiment de danger. Et malheureusement, oui, j'y pense toujours, assez souvent.
Sur l'intensité des émotions, je ne parle pas du pendant, mais les années qui ont suivi et aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à évaluer si vous avez, d'une certaine manière, au niveau de ces émotions, cicatrisé ?
Pas du tout. Je le dis honnêtement, il ne faut pas se voiler la face. Non, il n'y a pas de cicatrisation. Il y a une blessure, donc ça fait une cicatrice. Et depuis peu, j'ai une nouvelle prise en charge thérapeutique que j'ai été chercher par moi-même parce que j'ai senti que je n'arrivais plus à gérer les émotions. Donc j'ai un passif qui fait que l'attentat du Bataclan a rouvert des blessures, on va dire psychologiques, qui n'ont pas été soignées. Et au bout de 10 ans, ça fait une petite cocotte minute de pression. Et donc depuis un an, je me sens beaucoup mieux. Mais j'ai été chercher de l'aide. Ouais.
D'autant plus que vous n'étiez pas tout seul pendant les attentats, vous étiez au moins à deux. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur cette soirée-là ? On ne va pas tout raconter, mais qu'est-ce que vous auriez aujourd'hui, 10 ans après, envie d'en raconter ?
Sur cet événement, envie de raconter, 10 ans après, ce qui est fou, c'est que j'ai regardé aucun reportage. Je sais qu'il y a eu de belles réalisations, il y a eu des séries télé dessus. J'ai le sentiment que tous les gens ont déjà vu ou savent finalement ce qui s'est passé. Il y a moins de curiosité morbide, même quand j'en parle, par rapport au tout début. Peu de choses à dire. J'ai le sentiment que tout le monde sait. Et je ne veux pas l'oublier, hein, ça fait partie du vécu. Mais je n'ai pas pu ça raconter. On va rentrer dans l'anecdotique qui finalement ne va pas aider.
Le mot de survivant, vous en pensez quoi ?
Oui, celui-là, oui, il est 100% juste. On est tous survivants pour ceux qui ont réussi à survivre à cet événement. On est survivants parce que on n'est pas guéri. Je ne peux pas croire que quelqu'un soit vraiment guéri de ce qui s'est passé, même s'il n'en parle pas. Pour avoir des amis proches qui étaient avec moi, on n'en a pas parlé depuis 10 ans. Mais je sais que les blessures sont là. Donc oui, on est des survivants, bien sûr.
Et chez vous, le verbe, il est facile ? Il est facile, il y a même du rire. Alors les gens doivent se dire, c'est bizarre, il parle d'un truc terrible et il est en train de rire. J'imagine que vous avez réfléchi à cette manière d'avoir besoin de le dire, d'en parler, pas de vous épancher, mais de raconter cette chose quand même qui, est, pour beaucoup, est indicible. Vous avez besoin d'en parler, pourquoi ?
Ça aide d'en parler. Ça l'ancre dans le réel aussi. Alors ça peut être un travail psy de ne pas faire en sorte que l'événement ait existé, en fait. Donc j'ai une certaine liberté à en parler, je l'ai vécu. En plus, ça colle à ma personnalité aussi, je suis assez cash et direct. Donc voilà, j'ai pas de souci pour en parler. J'arrive à mesurer l'auditoire quand on touche autre chose et que ça devient, tout à l'heure j'ai utilisé un peu plus sordide, morbide et de la curiosité mal placée. Mais dire que j'y étais, dans certaines situations, même professionnelles, ça m'est arrivé de le dire. Voilà.
Ça peut expliquer des blocages, ça peut expliquer certaines réactions qu'aujourd'hui vous n'auriez pas eues avant, selon vous ?
Non, je n'ai pas cherché à gagner en empathie à travers ça ou à m'en servir. On va dire que je l'ai vécu et j'en parle, c'est un événement de ma vie. C'est plutôt donc dans ma nature, je ne suis pas quelqu'un de timide qui cache en fait ce qu'il a vécu. Les gens de mon quotidien savent ce qui s'est passé. Maintenant, on voit aussi qu'il y a une évolution du ressenti, beaucoup moins de prévenance, d'empathie au jour le jour.
Vous êtes plus cash.
Moi, je suis plus cash et ça révèle chez ceux d'en face, ah oui, c'est vrai, il y a eu ça. Donc, je retrouve un peu de ce regard des premières années, on va dire, en tout cas déjà de la première
année.
Est-ce que
ça veut dire que vous avez gagné en adolescence avec ça ?
Non, j'ai repris goût de vivre, c'est ouais. Pour ça. Et je vois toujours le verre à moitié plein. Et le rire a toujours été une forme de défense pour moi. Je pourrais faire de l'humour noir sur le Bataclan et des blagues de Charlie Hebdo dessus continueraient à me faire rire, bien sûr.
Est-ce que certains des changements que vous avez vécu ces 10 dernières années sont directement liés à cette nuit-là, cette soirée-là ?
Oui, toute ma vie. Toute ma vie d'aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez en citer ? Je ne vais pas rentrer dans votre intimité, mais qu'est-ce qui vient en tête ?
Le premier, de quitter Paris, concrètement. Ça a commencé, l'hypercachère, c'est le chemin que je prenais tous les jours.
Quelques mois avant cet attentat du 13 novembre, en janvier, le 9 janvier 2015 précisément, au surlendemain des attentats de Charlie Hebdo, il y a la prise d'otage des clients d'un supermarché juif tout près d'ici là où on enregistre, dans le 11e arrondissement. C'est près de la place de la Nation, une tragédie. Et vous aussi, c'était là où vous passiez devant quasiment quotidiennement.
C'était mon chemin pour aller au travail, donc je passais devant tous les jours. Charlie Hebdo, c'est à côté des locaux. On a été avec ma femme le soir, j'ai eu besoin d'aller faire cette commémoration à Charlie Hebdo, donc c'est des choses qui m'ont marqué. Et ensuite le Bataclan, la musique, c'est également sur le chemin, c'est pas très loin. Donc Paris est devenu trop fort, et donc ce besoin de déménager, on a mis plusieurs stades à le faire, il y a plusieurs étapes, parce que ça ne se fait pas aussi facilement. Et maintenant, il y a un équilibre. On est sur Bordeaux, c'est agréable, je ne vais pas en faire la publicité. Mais voilà, on est bien là-bas et j'ai la chance d'avoir un travail qui permet de télétravailler. Je travaille donc dans la communication et c'est un atout fantastique parce que ça fait partie de mon bien-être.
Laurent, on va vous retrouver tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Et cette musique que l'on entend, elle avait été captée il y a 5 ans par la Philharmonie de Paris, poème symphonique intitulé « Il fait novembre en mon âme », projet initié par les parents de Stéphane, tué lors des attentats, œuvre musicale créée spécialement par Béchara El Khoury, mémoire, deuil. Carole Damiani, vous venez d'écouter ce témoignage de Laurent, survivant, il évoque le danger. Encore aujourd'hui, il dit que parfois c'est compliqué de gérer ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire, gérer ses émotions quand on a survécu à un attentat comme celui du Bataclan ?
Ça veut dire se sentir débordé par des émotions qu'on n'arrive plus, parfois même à comprendre, mais surtout ne pas arriver à maîtriser. On ne sait pas trop d'où elles viennent et tout d'un coup, elles vous submergent malgré vous. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser et vous n'arrivez pas à les contrôler. Et c'est important de faire un travail sur ces émotions pour comprendre quelle est leur signification. Il a dit qu'il a fait une deuxième tranche de travail psychothérapeutique, c'était peut-être cette phase de compréhension qui était importante à faire.
Il faut qu'il y ait une forme de mûrissement aussi.
Alors, c'est pas donné d'emblée comme ça, de rentrer un petit peu dans son mode de fonctionnement. Il faut du temps, oui.
Alors, Laurent lui a décidé de se couper de ce qui ravive le souvenir, les séries, les reportages, il évite même certaines évocations. Qu'est-ce que vous avez observé, vous, comme attitude, Carole Damiani, de la part des survivants à cet égard ? Est-ce qu'il y en a certains qui s'immergent ou est-ce que la plupart des personnes, elles choisissent une mise à distance ?
Alors, on a un continuum qui va de l'évitement, c'est-à-dire il y en a qui n'ont pas regardé un JT depuis les attentats, qui ne se sont pas confrontés à une scène violente, quelle qu'elle soit, qui coupe la télé dès qu'il y a quelque chose, qui ne regarde pas certaines séries, certains films. Et à l'autre bout de la chaîne, alors vous avez des personnes qui ont un point de vue plus entre deux. C'est-à-dire, c'est un petit peu, mais pas trop. Et ils le supportent à petite dose. Et puis, tout au bout de la chaîne, vous avez des personnes qui sont complètement fascinées, complètement fascinés, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher tout ce qui concerne cet attentat, mais les attentats en général, la souffrance, le traumatisme, et qui sont très impliqués dans ce champ et qui ne le quittent plus.
Alors, il y a même la mise à distance chez lui, de manière physique, avec le déménagement.
Alors, effectivement, ça va du « ils ne seront pas plus forts, je reste parce que je vais plus fort qu'eux », puis d'autres qui disent « mais ça n'a pas de sens, moi, ma vie, elle a… » C'est-à-dire que pour beaucoup, l'événement traumatique va venir changer leur échelle de valeur. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en haut de l'échelle des choses qui leur semblent beaucoup plus importantes qu'auparavant. Le futile, ça disparaît. Et si leur bien-être, ça passe par le changement, ben, ils vont changer et ils ont tout à fait raison.
Alors, en novembre 2017, c'était 2 ans après les attentats, on avait accueilli dans cette même émission Fred Deville, d'Odeur de BD, survivant lui aussi du Bataclan. Et Fred Deville, eh bien, il s'est donné la mort en mai 2024. Carole Damiani, il nous avait raconté sa douleur, la terreur qu'il avait mis en forme, en dessin très noir, très angoissant. C'était un livre qui s'appelle « Mon Bataclan ». Et il avait expliqué se sentir comme un mort parmi les vivants. Je me suis posé la question de savoir si on passerait cette interview. J'ai décidé qu'on ne le ferait pas. Je préfère citer ce qu'il nous avait dit. Et c'est vrai qu'on entend la mémoire, les blessures cicatrisées, tourner la page. On va le dire d'emblée, pour certains, cette réparation, elle n'est jamais venue.
Effectivement, parce qu'il y en a pour qui il y a un avant, un après, et c'est irrémédiable. D'autant plus que ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'un passage à l'acte suicidaire, c'est toujours multifactoriel. Bien entendu, l'attentat a un poids très important, mais peut-être pas que. Et ces raisons leur appartiennent. Et il faut voir comment cet événement va venir se catapulter avec d'autres événements qui ont pu se produire ou ce qu'ils ont pu penser par ailleurs. Donc il faut être très prudent. Mais c'est vrai qu'on retrouve, par exemple, chez certains combattants, cette impression d'être un mort parmi les vivants. Et il y a un terme d'un psychiatre militaire qui dit comment les aider à réintégrer la communauté des vivants.
C'est une problématique qui se pose aussi avec les otages. Après une très longue séquestration, se réinscrire dans le quotidien et une forme d'insouciance autour de soi. C'est vrai que des fois, on a du mal à se lever, manger, écouter, rire. Et tout ça, pour certaines personnes, c'est quelque chose d'invivable.
Alors, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on mourra un jour. Or, c'est quelque chose qu'on met très à distance. On a plein de choses qui nous permettent de ne pas y penser. Et là, suite à cet événement, eh bien, c'est le contraire. C'est l'ubiquité de la mort. La mort, elle est partout. Il suffit d'un bruit, c'est la mort. Les pensées, ce sont des pensées noires, morbides. Et le but, c'est de retourner à une certaine innocence par rapport à la mort. Et c'est un long chemin pour certains.
Carole Damiani, on va vous retrouver pour la deuxième partie de l'émission. On poursuit cet échange, on retrouvera Laurent. Et il nous a fait partager une chanson, c'est lui qui a choisi. C'est un titre de Lola Young du Rock Spider sur RFI.
Lay me on the gold.
Priorité santé sur RFI, santé mentale, traumatisme, processus de reconstruction 10 ans après les attentats du 13 novembre, parcours singulier avec différentes étapes dans le soin, les émotions, le rétablissement. Nous sommes toujours en compagnie de Carole Damiani, docteur en psychologie, directrice de l'association Paris Aide aux Victimes. Ces commémorations et une autre date qui marque l'hommage aux victimes du terrorisme, c'est le 11 mars. C'est la journée européenne des victimes du terrorisme, en référence cette fois à un autre attentat dans une autre capitale européenne. C'était l'attentat de Madrid en 2004. Cette première journée nationale d'hommage, elle avait eu lieu en 2020. On avait reçu à ce moment-là un autre survivant, Didi, responsable de la sécurité du Bataclan justement. Lui qui était venu au secours des spectateurs pris pour cible par les terroristes dans la salle de spectacle. Didi à ce moment-là avait insisté sur le caractère individuel du ressenti comme de la reconstruction. On écoute cette archive de 2020.
Moi, je vois autour de moi, enfin, des gens que j'ai pu aider ou non, pour être en contact avec pas mal de victimes. Il y en a qui ont réussi à, qui ont réussi à avancer. Et il y en a qui ont vraiment beaucoup de mal. Donc, je pense que chacun, dans cette résilience, va à son rythme.
Aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce qu'il vous arrive même de vous arrêter pour réfléchir et dire, par rapport à ce qui s'est passé, voilà où j'en suis aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Je pense que c'est important des fois d'essayer de faire des pauses et de se rendre compte des choses. Après, moi, le fait est que après avoir vu, comme je l'ai déjà dit, après avoir vu la mort, on m'a appris la vie. Donc, j'ai dû me remettre dans un autre schéma en apprenant que j'allais être père. Donc, ça m'a permis aussi d'avancer avec la naissance de ma première fille. Donc, ça m'a remis en gros directement dans le bain de la vie où je suis obligé d'avancer. De toute façon, c'était presque une obligation pour moi.
Et quand vous revenez les premières fois travailler, justement, quand le Bataclan rouvre, j'imagine que vous avez été pris en charge, bien sûr. Il y a eu la prise en charge d'urgence et puis sur le plus long cours. Quel travail vous avez effectué? Qu'est-ce que ça a été comme expérience pour vous? Et est-ce que c'était indispensable d'être pris en charge pour retourner?
Je pense que ça m'a aidé quand même. J'ai fait un bon travail avec une psychologue, Madame Larmandie, pour pas la citer, qui travaille avec la BRI et la police, qui est la psy attitrée. Voilà, c'était un travail que je trouvais adapté, dans le sens où me laisser tout simplement un espace dans cette période qui était très compliquée, parce que cette première année, surtout la première année, c'est très compliqué entre tous les médias qui vous sollicitent et surtout toutes les personnes qui cherchent à vous revoir pour vous dire tout simplement merci ou truc, mais à chaque fois ça vous remet dedans. Voilà, c'est vraiment que c'est répétitif. Et donc,
mais même quand on vous pose des questions, comme je suis en train de le faire, on se demande sur quel terrain on va aller, parce qu'on n'a pas envie non plus de relancer la machine du souvenir.
Ouais, après la machine du souvenir, j'ai envie de dire la première année, même jusqu'à aujourd'hui, hein, de toute façon, elle est toujours là. Hein, on reviendra toujours. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un que j'ai pu aider qui va me rappeler. Quand il y a des journées de commémoration comme ça, bah on me rappellera tout le temps. Et de toute façon, tout le temps, donc il faut faire avec. Hein.
Didi qui assurait la sécurité dans la salle de spectacle du Bataclan le 13 novembre 2015, au micro de Priorité Santé en 2020. Faire avec, Carole Damiani, beaucoup de personnes qui ont vécu ces événements vous disent ça, de toute façon, j'ai pas le choix, faut faire avec.
Beaucoup le disent, mais pas comme quelque chose d'obligatoirement négatif, c'est-à-dire ça fait partie de notre vie. Il y a une expression que j'aime beaucoup aussi, qui est celui de l'epsilon irréparable. L'epsilon irréparable, ça veut dire qu'il restera toujours quelque chose à chacun d'en faire quelque chose d'un temps soit peu, sinon positif, en tout cas, avec, on fait avec.
Moins insupportable possible. Alors, les victimes, bien sûr, elles sont multiples, les survivants au pluriel. Il y a les personnes endeuillées, il y a les sauveteurs, il y a les témoins, il y a les voisins. Est-ce que ce statut, cette différente, on va dire pas fonction, mais malgré eux, ils ont eu ce destin-là, ce jour-là, ça va directement déterminer la nature ou la forme, non seulement du traumatisme, mais aussi des soins?
Ça va déterminer le vécu. Par rapport à ce qu'ils ont vécu, ça ne change pas grand-chose aux symptômes. Les symptômes, on les retrouve, les reviviscences, les évitements phobiques, l'anxiété, etc. On retrouve le même socle. Mais la façon dont ils l'ont vécu est différente. C'est-à-dire la culpabilité d'un survivant lambda est différente de celui d'un primo-intervenant ou d'un sauveteur ou de Didi qui avait une fonction particulière à ce moment-là. Donc c'est plutôt sur la façon dont ils l'ont appréhendé, dont ils l'ont vécu, qui va être différente. Donc on ne peut pas l'aborder de façon similaire.
Alors, souvenir, reconstruction, on retrouve maintenant la seconde partie du témoignage de Laurent. La suite de ce témoignage, pour aborder, si vous le voulez bien, Laurent, vous qui étiez l'un des spectateurs du concert de rock au Bataclan le 13 novembre 2015, abordez donc deux moments, deux actions spécifiques dans le processus de rétablissement, les soins et la justice. Est-ce que vous avez été suivi par un psychologue, psychiatre ou un autre praticien en santé mentale après ces événements?
Oui, on a été assez bien encadré. On va dire qu'il y a eu vraiment plusieurs phases. Ça pourrait durer longtemps, cette explication, je me rends compte. Il y a eu tout d'abord la prise, une totale surprise du corps médical quand on s'est retrouvés tous répartis dans les hôpitaux alentours. Donc moi, j'étais sur Mont-d'Or. Comme j'avais touché dans le dos, j'étais dans un service spécialisé. Et j'ai vu qu'ils étaient pris de court. Donc on a eu des soins de première urgence, des façons de, je ne me souviens plus exactement du terme, mais de décharger. Ils nous ont donné des antihistaminiques, c'était assez étonnant. Je ne pensais pas que l'antihistaminique permettait de faire baisser l'émotion. Et par la suite, il y a eu tout un ensemble administratif qui s'est mis en place via le FGTI, donc le fonds de garantie, alors moi je l'appelle victime du terrorisme, mais je pense que ça concerne en fait toutes les victimes d'accidents, que ce soit de circulation ou autre. Les grandes tragédies. Et là-dessus, on a une meilleure prise en charge. On a été dirigé vers des psys recommandés. On n'a pas toujours trouvé les bons. Le début était très laborieux. J'ai parlé de tout à l'heure de curiosité morbide. Encore aujourd'hui, donc j'ai trouvé un psy. J'ai mis du temps à le trouver, celui que j'ai actuellement, parce qu'on reste des cas à part. Mmh. Je ferai la psychanalyse. Je me présente, je vois un patient qui arrive, je suis voilà, survivant, je reprends le terme, je suis survivant du Bataclan, je suis, ah, c'est cool ça, j'en ai pas souvent. Donc j'ai appris à faire la part des choses sur la façon dont je m'encadre de professionnel. Mais ça n'a pas été évident et c'est venu beaucoup plus de moi pour trouver la bonne personne avec qui en parler et trouver le traitement.
Vous avez ressenti assez rapidement des effets de cette prise en charge ou finalement, oui, il y a eu des phases et c'était très différent en fonction des moments?
Il y a eu un travail, alors je ne me souviens plus du nom, j'aurais aimé me souvenir du nom, sur de l'EMDR, donc une technique approuvée justement pour ce genre de traumatisme, fait sur Paris. Ça a fait un travail formidable sur le Bataclan, vraiment. Il aurait fallu pousser l'exercice plus loin sur mon vécu et ce qui s'est passé dans ma vie d'avant, avec les autres blessures. J'étais trop fatigué pour le faire.
La prise en charge du psychotrauma. Hein.
Oui, voilà. Je ne l'ai pas fait. J'aurais dû pousser pour me sentir bien et ne pas avoir, sur les dernières années, avoir eu ce besoin de continuer à être épaulé, en fait. Je pense que si j'avais continué ce travail, je serais encore plus serein aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, il y a encore un psy dans votre parcours de vie.
Oui, et heureusement qu'il est là.
Entre septembre 2021 et mai 2022, s'est tenu devant la cour d'assises spéciale de Paris le procès de ces attentats. 148 jours d'audience, 14 accusés présents, 6 jugés en absence. Est-ce que vous avez assisté aux audiences, toutes ou partie?
Aucune. On s'est beaucoup posé la question avec ma femme, qui est avec moi ce soir-là. On s'est porté partie civile. On a été accompagné par un avocat. Donc, il nous a logiquement demandé si on souhaitait être partie civile. On a répondu favorablement, mais on ne s'est pas rendu au procès. Donc, Gaël, je pense que c'était beaucoup trop fort émotionnellement pour elle. Et par le vécu, moi, sur le Bataclan, je ne voulais pas faire une liste à l'après-vert j'ai vécu ça, avoir une approche beaucoup trop personnelle. Donc, je ne me suis pas senti, c'est pas de la légitimité, mais utile à continuer à enrichir la voix de la partie civile. Je sais qu'ils étaient suffisamment nombreux, présents, et les associations étaient là pour porter le discours des victimes.
Vous avez employé le mot « utilité ». Si je retourne la question, est-ce que ce procès, il a été d'une utilité pour vous?
Honnêtement?
Oui.
Non, je vois pas.
Vous en attendiez quelque chose déjà?
Pas du tout, ouais. Parce que pour moi, ce procès... je pense que c'est le devoir de justice d'aller jusqu'au bout d'un point de vue pénal il est resté un des survivants de ces attaques terroristes, donc c'est de poursuivre le travail de la justice, mais j'en entendais pas plus. Non, il y a une forme d'égoïsme aussi derrière, j'ai réussi à en survivre tout seul, J'ai pris ma femme par la main, on est sorti tout seul. Voilà, tout cet événement, on s'en est sorti seul, quoi.
Vous avez pris votre femme par la main?
Oui.
Cette expression, elle dit beaucoup. Est-ce que ça a scellé quelque chose de définitivement différent dans votre rapport à la vie avec elle? Parce que quand même...
100%. Ouais. C'est fou, le hasard. Parce qu'aujourd'hui, il y a exactement 1h30, je suis allé chercher une bague de fiançailles.
Il était temps.
Et je vais vous dire, le jour où je lui ai dit « il faut qu'on se marie », je pense que c'était le 14 novembre.
Ouais.
Demain, c'est son anniversaire. Mmh. Et donc, demain, je la demande en mariage. Au moins, je le fais avant le 13 novembre.
Elle le sait ou pas?
Non, elle le sait pas du tout.
Mais c'est bien parce que comme c'est diffusé dans quelques jours, on va pas
elle
justement...
Elle le saura
à ce moment-là.
Elle le saura. Oui, bah, elle va le savoir demain.
Elle va le savoir demain. Donc, on va rien griller du tout comme nouvelle, heureusement. Il y a un embargo là-dessus parce que c'est quand même à vous de lui dire avant la radio.
Oui, ça a scellé... On est à la radio, on peut pas le voir. J'ai une bague ici qui est, sur laquelle c'est écrit « À la vie, à la mort ».
Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est ce qui vient immédiatement
voilà,
en tête.
Voilà, donc c'est exactement ça. Quoi qu'il arrive, c'est...
Plus qu'une alliance.
Ce qu'on a vécu est beaucoup plus qu'un engagement de contrat de mariage ou quoi que ce soit. Non, c'est les pour la vie, bien sûr.
Ça a changé quelque chose par rapport à elle. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre rapport aux autres, votre rapport au monde, parce que vous avez aussi deux enfants, par rapport à l'espoir, par rapport à une forme de positivité, je ne vais pas dire positivisme, de positivité pour l'avenir. Vous y croyez encore?
C'est difficile, l'actualité ne va pas me donner raison. Je reste un caractère très optimiste, donc je verrai toujours le bon côté des choses. Malgré tout, je trouve ça assez compliqué. J'essaye d'élever les filles, c'est des jumelles, vers cette orientation, voilà, vers cette direction de positivité, on ne veut pas dire de positivisme, pas le faire pour rien. C'est pas facile, c'est pas évident, mais il faut garder. On a une chance, même si on la saisit. Donc voilà, la vie est précieuse, fragile, et faut profiter. Donc oui, j'essaye malgré tout qu'on soit bien et qu'on soit dans un état d'esprit agréable.
Et vous aimez toujours le rock'n'roll?
Ah, toujours, oui, ça, c'est impossible.
Merci beaucoup. Merci d'avoir parlé, d'avoir fait cet effort pour nous, pour RFI. Merci beaucoup, Laurent.
Je vous en prie, merci.
Carole Damiani, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce témoignage? J'imagine que vous en avez entendu beaucoup, mais chacun porte en lui beaucoup de force.
Alors, il y a des ressources et reste à chacun à aller... Sur quoi on peut s'appuyer sur chacun? Parce qu'on a tous des trésors qui sont parfois enfuis et très profonds. Et il y en a qui ne se sont jamais autorisés à y avoir accès. Donc, c'est peut-être aussi le moment, ces moments particulièrement douloureux, d'aller les chercher et de s'appuyer dessus pour donner un coup de pied dans le fond de la piscine et remonter.
Vous l'avez très brièvement évoqué tout à l'heure, ce procès, puisqu'en tant que psychologue, vous étiez présente, comme vous l'avez expliqué. Le rôle de votre association, c'est aussi en grande partie ça, Paris Aide aux Victimes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, quel a été justement le rôle de votre association, vous, psychologue, pour la préparation, pour le déroulement du procès, qui a été pour beaucoup des survivants une étape absolument essentielle?
Alors, la préparation, ça a été de longues années avant. Puisque c'était un procès hors norme et qu'il fallait repenser entièrement les dispositifs dont nous avions l'habitude auparavant. Et donc, nous avons fait des réunions préparatoires avec les victimes pour leur faire visiter les lieux, pour qu'elles puissent s'approprier un petit peu le temps où elles allaient passer plusieurs mois, tout de même, leur expliquer le déroulement, ce qu'on peut attendre d'un procès, ce qu'il est pas utile d'attendre d'un procès parce que ce n'est pas possible. Leur parler aussi des accusés, leur dire ce qu'ils ont déjà dit jusque-là et ce qu'on peut attendre de mieux de leur part. Et puis, c'est important aussi que déjà, elles fassent un peu groupe. Et on a vu très rapidement une solidarité importante entre les victimes. Et nous étions là, le dispositif était présent pendant tout au long du procès et notamment pendant les épreuves les plus importantes et les témoignages. Nous avons entendu près de 500 témoignages de victimes qui ont épuisé tous les professionnels présents, les victimes elles-mêmes, mais qui l'ont vécu pour certaines comme un devoir, pour d'autres comme une nécessité. Elles souhaitaient, entre autres, que les accusés prennent conscience de ce qu'elles avaient pu vivre, alors avec des effets plus ou moins avec certains effets, peut-être. Ouais.
C'est vrai qu'on entendait la presse qui soulignait notamment l'absence de réaction des prévenus, devenus ensuite accusés et condamnés. Ça veut dire qu'on avait envie, d'une certaine manière, que ce qui était raconté, y ait une prise de conscience. Et est-ce que ça n'a pas été difficile, justement, de constater qu'il n'y avait pas forcément de prise de conscience?
Alors, c'est sûr que c'est douloureux, mais au moins, elles ont essayé.
Ouais.
Et de s'entendre dire, dès le départ, les victimes, c'est nous, c'est pas simple.
On disait tout à l'heure, les commémorations, ça peut raviver des traumas, j'imagine. Même, je pense que le procès aussi, ça a ravivé des traumas. Et vous étiez là pour aider, pour assister aussi. Ça, c'était très important.
Alors, pour les parties civiles, non seulement il y avait le travail classique de psychologie, c'est-à-dire d'avoir des entretiens à des moments, essayer de comprendre ce qui se passe en soi, apaiser les émotions, mais le fait qu'on soit là comme un fil rouge, qu'on soit là tous les jours, c'était un repère. Il y en a qui disaient, si vous n'aviez pas été là, on ne serait pas venu, parce que voilà, il y avait quelque chose qui était là, une continuité. Et cette continuité même, cette présence même, était importante pour elle.
Sur le volet du potentiel, j'ai bien dit potentiel, réparateur de la justice à l'audience, votre association, elle a conduit une étude pour savoir à quoi servait finalement ce procès. Qu'est-ce qu'il en a été tiré comme conclusion?
Qu'un procès n'est pas thérapeutique. C'est venu confirmer effectivement que trauma avant, trauma après, deuil avant, deuil après, c'est-à-dire ce n'est pas là-dessus que l'effet est positif. En revanche, dans la recherche de vérité, dans la recherche de savoir qui, comment, pourquoi, avoir l'impression aussi qu'il y a un message qui est passé, de faire cette expérience d'un soutien social fort, d'une reconnaissance publique, tout ça c'est présent. Donc la fonction sociale, la fonction collective du procès est très importante, mais une thérapie, en aucun cas.
Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus l'investir de plus. Le procès, on juge, on comprend, on ne soigne pas.
On comprend, mais effectivement, on ne soigne pas. Le soin, c'est de soi à soi.
Ce terme de soulagement qui revient souvent dans la bouche des survivants, il y a la peur, il y a la douleur et il y a aussi, j'imagine, ça s'est vécu aussi lors du procès, certaines personnes qui n'ont trouvé aucune réponse.
Alors, ce qu'on observe, là encore, on peut faire des différences entre des personnes qui attendent tout du procès, de l'extérieur, de la justice avec un grand J, que ça vienne apporter des réponses, mais sans s'impliquer soi-même dans cette recherche. Alors que pour des personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui ont trouvé des réponses personnelles, pourquoi je culpabilise, pourquoi je ne vais pas bien, pourquoi ça résonne de cette façon en moi, attendent moins du procès, moins de l'extérieur, des réponses internes. C'est-à-dire qu'elles ne déplacent pas sur la scène extérieure ce qui devrait rester du domaine de l'intime. Et ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas donné d'avance d'arriver à faire la part entre ce qui appartient à l'intime et qui ne se réglera que de moi à moi, et ce qui est de l'ordre du collectif, qui va se régler sur la scène sociale.
Alors depuis 10 ans, on entend Carole Damiani, aussi une association très importante, Life for Paris. J'ai entendu son président, il n'y a pas très longtemps à la télé, Arthur Desnouveaux, lui aussi rescapé du Bataclan, pressentir qu'après le 10e anniversaire, après ces commémorations, eh bien, en quelque sorte, le regard allait changer, davantage appartenir au passé, à l'histoire, pour le grand public, et non plus dans le ressenti du présent. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
C'est ça.
Oui.
Ça fait plusieurs années qu'il en parle. C'est-à-dire qu'il se pose la question de, on finit comment? Comment ça peut finir cette histoire? Est-ce que ça peut finir, en tout cas, l'aventure associative? Et cette aventure associative, je crois qu'elle avait suivi une boucle, et que là, il est à la fin de la boucle, et que ça a un sens pour Life for Paris, de se dire, maintenant, nous n'avons plus à apporter à nos adhérents en restant tous ensemble au sein de cette association. Ce qu'on voit, c'est que certains vont adhérer à d'autres associations. Par exemple, à l'Association française du terrorisme. Mmh. C'est-à-dire, ils vont sortir de leur attentat pour adhérer à une cause plus générale. Et pour d'autres, c'est enfin le moyen de s'en sortir. Je crois qu'être connu comme victime, être soutenu par d'autres victimes, c'est un temps, mais il faut savoir s'en sortir aussi.
J'ai une question, c'est une question piège, mais je vais quand même vous la poser. On est 10 ans après les attentats. Vous avez à côté de vous un petit enfant qui n'a pas vécu ça. Il a 6, 7, 8 ans. Et il vous dit, Carole, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Qu'est-ce que vous lui dites?
Que c'est très difficile à comprendre, surtout que ces hommes ont été des enfants, ont été des adolescents qui ont aimé, qui ont ri, qui ont joué, qui ont apprécié la musique. Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ils ont basculé? Ça peut avoir un effet très inquiétant pour un enfant de s'entendre dire « il était comme toi », puis il est devenu un terroriste, un assassin. Il y a des raisons internes, il y a des raisons externes. Elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais c'est difficile d'expliquer à un enfant comment on peut se transformer.
Un grand merci pour votre présence aujourd'hui dans nos studios, Carole Damiani. On va se laisser avec ce titre, Pete Doherty, Hell to Pay the Gates of Heaven, l'enfer à payer aux portes du paradis, écrite par le rocker britannique après ses attaques du Bataclan.
Oh, come on boys, you gotta choose your weapon. J-45 or AK-47, all hell to pay the gates of heaven, and the whole show comes tumbling down.
Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et réalise votre émission. Tiffany Menta et Victor Hull à la réalisation. Demain, émission Questions de femmes. On va parler de la prise en charge du diabète au féminin. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec la B6 qui devient Sounou Banque Sénégal. Une nouvelle ère pour réaliser toutes vos ambitions, avancer ensemble et relever des défis plus grands.